Radio Kapi. Oh, Kapi.
Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information. D'abord les titres. La MONUSCO et les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation enclenchent les processus de transfert des compétences dans les Nord Kivu. C'est dans le cadre du désengagement de la MONUSCO de la RDC. L'ONG Alerte Internationale a lancé hier vendredi la deuxième phase du projet Mupaka-Chambaletou, la frontière Notre Gagne-Pain à Bukavu. Ce projet vise à renforcer la paix à travers les commerces transfrontaliers. L'invité de ce matin nous vient de Kananga. Il s'agit de Saïd Psy, spécialiste programme de l'UNESCO sur la stratégie de l'éducation. Il parle de l'engagement de l'UNESCO à accompagner la société civile locale dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation. Bonjour à tous. Ce journal part du Nord Kivu où la coordination provinciale du PDDRCS et la MONUSCO DDR Stabilisation enclenchent dès cette semaine un programme de transfert des compétences et tâches. Ceci cadre avec les processus de désengagement et de transition de la MONUSCO de la RDC. Une première visite guidée du site de transit DDR de la MONUSCO à Munigi, territoire de Nyiragongo, a été organisée lundi 19 août dernier. Selon les coordonnateurs provinciaux du PDDRCS, ces programmes devraient grandement contribuer au renforcement des capacités de sa structure. Clovis Munihire le dit ici au micro de Bernardin Nyangi.
Le PDDRCS doit être appuyé par la mission des Nations Unies. Dans ce cadre-là, on a commencé ce processus de transfert de compétences. Et nous sommes prêts pour prendre les relèves. Nous avions commencé ce processus dans le site de transit de Munigi. On a vu tout ce que les amis faisaient. On a vu le personnel et c'est impressionnant pour moi parce que j'ai présenté le gouvernement congolais, vu ce que la MONUSCO fait dans ce site-là. Je me suis dit que nous devons nous préparer à conséquence. Le transfert de compétences, ça ne suffit pas seulement gérer le site, mais il y a aussi cette compétence-là qu'il faut faire tout pour les récupérer. Donc, comme vous le savez, en tant que gouvernement, d'abord, tout ce que la MONUSCO faisait, c'est notre tâche et nous devons prendre nos responsabilités. Parce que la MONUSCO et tout le monde le sait que c'est une mission qui est venue pour un temps bien déterminé et à Bukavu se sont déjà retirés. Et pour nous, au Nord Kivu, on s'est dit non. Toutes les éventualités qui peuvent surgir après le départ de la MONUSCO, nous devons faire face à tout ça.
Rappelons que la phase de désengagement et de transition de la MONUSCO dans la province du Nord Kivu, entre autres, a été prolongée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la demande du gouvernement congolais. Restons au Nord Kivu pour parler de l'insécurité qui refait surface dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. La société civile locale affirme que depuis quelques jours, les maisons d'habitation sont visitées presque chaque nuit par des criminels souvent armés. Elle tire la sonnette d'alarme et appelle les services de sécurité à agir de toute urgence pour mettre fin à cette situation. Marc Marofimbo nous en dit plus.
La société civile d'Oicha rapporte que les attaques des bandits armés contre les habitations se sont intensifiées au cours des trois dernières semaines. Mercredi, par exemple, cinq maisons du quartier Pakanza ont été prises pour cible par ces hors-la-loi. Ils ont blessé trois personnes à la machette et dérobé des biens de valeur. Durant la même nuit, la clinique Africano a également été visitée. Les bandits y ont volé une moto appartenant à un infirmier après avoir échoué à pénétrer dans les bâtiments. Le docteur Emery Katavali, responsable de la clinique, appelle les autorités et les services de sécurité à prendre leurs responsabilités.
Nous sommes à plein centre-ville d'Oicha, qui est censé être un milieu le plus sécurisé. Mais quand déjà des milliers inviolables commencent à subir de tels actes, qu'est-ce que nous allons dire pour les simples citoyens qui habitent les fins fonds de la commune d'Oicha? Donc cette population est abandonnée à sa triste sort. Nous demandons aux outils de sécurité et à toutes les autorités civilo-militaires de prendre leurs choses au sérieux avant que les choses ne s'empirent.
Ce mercredi, le bourgmestre de la commune rurale d'Oicha a rencontré les acteurs de la société civile pour discuter de cette situation préoccupante. Nicolas Kikuku exhorte la population à redoubler de vigilance et à identifier les suspects qui se cachent dans la communauté. Il annonce également l'ouverture d'enquêtes pour traquer ces voleurs qui troublent la tranquillité des habitants. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Au Sud Kivu, je le disais tout à l'heure, lancement c'est vendredi 23 août de la deuxième phase du projet Mupaka Chambaletu, la frontière notre gagne-pain à Bukavu. Projet de l'ONG Alerte Internationale visant la consolidation de la paix à travers les commerces transfrontaliers. À la suite des résultats de la première phase du projet jugé satisfaisant, les bailleurs des fonds ont approuvé la deuxième phase. Cela en vue de consolider les acquis. Quels sont ces résultats et quelles particularités pour cette deuxième phase, élément de réponse dans ce reportage de Rachel Kiesembangou.
La cohésion sociale dans les communautés transfrontalières, l'autonomisation économique des femmes petites commerçantes transfrontalières, voilà des résultats enregistrés dans la première phase du projet. Armel Katembera, coordinatrice de l'organisation CCF, célébrant le courage de la femme.
Dans la phase 1, on les appelait les petits commerçants, mais aujourd'hui, elles s'appellent des commerçants qui sont en train d'ambitionner d'être aussi des grands commerçants demain ou après-demain. Ils les ont ramenés des petites activités vers les activités qui, je peux dire, aujourd'hui moyenne. Il y a aussi cette cohésion qui a été renforcée au niveau régional aussi entre les femmes de la région des Grands Lacs.
Narcisse Ziyundula, chef de projet régional à Alerte Internationale.
Nous avons élaboré cette deuxième phase du projet en vue de consolider tout ce que nous avons fait, afin que dans ce contexte actuel de la région des Grands Lacs qui est touchée et fragilisée par des conflits, nous avons voulu amplifier les rôles que menacent ces acteurs qui ont été accompagnés par le projet. Afin que ces derniers, pendant ces moments, ils peuvent jouer un rôle actif pour construire et renforcer cette cohésion sociale dont tout le monde a besoin.
Précisons que le projet Mupaka Chambaletu vise la cohésion sociale au sein de communautés frontalières entre la RDC, le Rwanda et le Burundi par le commerce. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
De Bukavu, rendons-nous à Bunia, dans l'Ituri, où il y a eu également lancement hier vendredi de la sensibilisation à la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, à la Direction générale des impôts au Centre synthétique de Bunia. C'était en présence des autorités provinciales et des membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Selon Kayumba Amissi, inspecteur chef des poules de la DGI province orientale venue de Kisangani, cette activité consiste à mobiliser les opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises pour la collecte de l'argent dû à la TVA au compte du Trésor public. Il ajoute que c'est aussi pour permettre à l'État d'avoir les moyens de réaliser sa politique. Un extrait de la déclaration de Kayumba Amissi est choisi par Martial Kizabiamungu.
La taxe sur la valeur ajoutée, ce n'est pas un nouvel impôt. C'est un impôt qui était recouvré d'abord par la grande entreprise et puis par les centres des impôts. Maintenant, on vient d'étendre pour les centres d'impôts synthétiques. Et l'objectif, c'est quoi? C'est rentrer dans l'objectif de Monsieur le Président de la République pour maximiser le recette de l'État afin de donner au gouvernement les moyens de faire sa politique. Comme dans d'autres cieux, la TVA est collectée par tout le monde, tous les contribuables sans distinction. Mais chez nous, comme c'était vraiment un nouvel impôt à l'époque, il fallait commencer par les grandes entreprises, les moyennes entreprises, et maintenant nous sommes dans le stade des petites entreprises. La TVA, c'est un impôt facile à gérer. D'un côté, il y a la TVA collectée et de l'autre côté, la TVA nette. La différence entre les deux TVA donne la TVA nette à reverser au compte du trésor public.
Ici à Kinshasa, les consortiums Les Congo n'est pas à vendre, SENPAV, mobilise depuis ce vendredi l'opinion nationale et internationale pour amener la RDC à récupérer ses gisements miniers vendus selon lui indûment auprès de la société Dan Gertler. Des membres de cette organisation ont lancé cette initiative au cours d'un échange avec la presse à Kinshasa. L'un d'eux, Dirk Chaka, regrette que ses contrats léonins fait perdre chaque jour des milliers de devises étrangères à la RDC. Suivez ce reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Le consortium Congo n'est pas à vendre est monté au créneau pour dénoncer les manques de transparence et de clarté autour de la cession depuis 13 ans des gisements congolais à l'homme d'affaires Dan Gertler. Cette organisation de lutte contre la corruption estime qu'il est temps que la RDC soit remise dans ses droits. L'un des membres de ce consortium, Dirk Chaka, estime qu'il n'est pas question d'élever des sanctions contre Dan Gertler, mais plutôt de mettre fin à ses accords avec le gouvernement congolais signé en 2022. Il est persuadé que la récupération de ces gisements permettrait au gouvernement congolais de mener des actions concrètes pour le bénéfice de sa population.
Nous avons aussi écrit au ministre de la Justice, au ministre de Mines, au ministre du Portefeuille, aux responsables de la GECAMINE pour leur demander de pouvoir se saisir de cette opportunité pour bénéficier des retombées de ces royalties qui peuvent servir à développer nos infrastructures, nos écoles, notre système d'enseignement et de santé, à pouvoir répondre aux défis du développement qui se posent avec acuité.
Le consortium Congo n'est pas à vendre considère Dan Gettler comme un des pilleurs des richesses congolaises par des ONG locales comme Occidental. Cet homme d'affaires israélien aurait fait perdre plus d'un milliard de dollars américains à l'État congolais dans un pays qui compte parmi les plus pauvres de la planète. Dan Gettler est depuis 2017 sous sanction du gouvernement américain.
Sans plus tarder, rendons-nous dans la province de Maïndombé où l'on a clôturé la recherche des corps après les naufrages survenus la nuit de dimanche à lundi dernier sur la rivière Lukeni dans les territoires de Koutou. Les bilans définitifs fait état des 29 corps sans vie repêchés et inhumés, et 128 rescapés enregistrés ainsi que plusieurs disparus. Tous les efforts fournis pour trouver d'autres corps sont restés sans succès. L'administrateur du territoire Jacques Nzenzamongi précise que la baleinière a été complètement cassée pour rechercher des corps, mais en vain. On l'écoute dans cet extrait proposé par Irène Mboma.
Actuellement, le bilan des morts est évalué à 29 en raison de 15 femmes, un enfant de sexe féminin et 13 hommes. Et celui de Capé, il est évalué à 128 rescapés enregistrés. Il y en a eu aussi qui n'ont pas été enregistrés, comme je vous l'ai expliqué tout au long de ces processus, qu'il y en a qui étaient déjà partis cette nuit même, par d'autres occasions qu'ils naviguaient notamment. Il y en a qui étaient des villages environnants qui avaient aussi déjà pris le chemin de retour de chez eux. On a eu l'impression qu'ils pouvaient se cacher de corps dans les décombres en dessous de la baleinière. Maintenant là, on a essayé de couper la baleinière en morceaux à l'aide des tronçonneuses et les morceaux de baleinière ont coulé. On a retrouvé qu'un mort sur les lieux. Bon, il n'y avait plus raison qu'on continue à rester là-bas. On a seulement demandé aux pêcheurs et aux localités qui sont en aval, dès qu'ils ramassent un nouveau corps, ils signalent comme ça on l'enterre.
Notez que près de 300 personnes étaient à bord de l'embarcation HB Jésus-Christ en provenance d'Oshoué pour la cité de Nyoki. Le naufrage est survenu à 19h juste près du village Madjoko. Justice dans ce journal, la Cour militaire de l'Équateur a organisé l'audience marathon jeudi dernier à Mbandaka. Devant la barre, le commissaire supérieur principal Guylain Nyembo. Le commissaire provincial intérimaire de la PNC Équateur comparaissait pour la troisième audience sur plainte de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il est accusé des violations des consignes, non-assistance à personne en danger et des refus d'un service dû légalement. Mais la Cour militaire n'a retenu qu'un des trois griefs à sa charge. Les points avec Paul-Richard Malengela.
Siégeant jeudi pour sa troisième audience sur cette affaire, la Cour militaire de l'Équateur a d'abord rendu son arrêt avant dire droit. Une réplique aux exceptions soulevées par les avocats de la défense. Ainsi, sur les trois infractions soulevées par le ministère public à charge du prévenu, la Cour n'a retenu que la première, à savoir violation des consignes. En revanche, elle a rejeté les deux autres, dont la non-assistance à personne en danger et le refus d'un service dû légalement. Après plusieurs échanges et débats liés à la procédure, la Cour militaire a renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 26 août prochain, toujours dans la salle d'audience Maître Désiré Iwolo, une salle qui était archi-comble et dont les alentours étaient aussi envahis par des Mbandakais curieux d'en connaître l'issue. Notons que l'Assemblée provinciale de l'Équateur a porté plainte contre le colonel Guylain Nyembo, alors commissaire provincial intérimaire de la PNC Équateur, pour violation des consignes, non-assistance en personne en danger et refus d'un service dû légalement, fait qu'il aurait commis lors des élections du bureau définitif de l'organe délibérant tenu sous haute tension en avril 2024. Le colonel Guylain Nyembo est assisté par 4 cabinets, dont une vingtaine d'avocats. Mbandaka, prochainement Malingé, la radio Okapi.
Toujours dans l'Équateur, bientôt une nouvelle prison sera construite dans cette province par l'Union européenne Kinshasa. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'appui à la réforme de la police, l'Union européenne a procédé le 20 août 2024 dans la ville d'Mbandaka à la remise officielle à la police nationale congolaise de deux bâtiments nouvellement construits et équipés au profit du commissariat de la police de la commune de Wangata et du sous-commissariat de Wedji Sekli. En lien avec ce programme et en appui à la réforme de la justice, l'Union européenne a, dans son communiqué publié ce vendredi, fait savoir qu'elle va également financer la construction d'une nouvelle prison d'une capacité de 400 détenus en Mbandaka dans la province de l'Équateur. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
La remise de ces bâtiments a été couplée à la donation de matériel informatique et roulant, composé notamment de 4 véhicules 4x4 ainsi que de 13 motos, précise le communiqué. Ces donations vont notamment renforcer les capacités opérationnelles des 150 policiers récemment formés sur les principes de proximité. La valeur d'un partenariat se mesure dans les moments difficiles et l'appui de l'Union européenne à la police de la République démocratique du Congo n'a jamais cessé depuis 2005. Ce bâtiment est ainsi le symbole de ce partenariat de long terme entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo, de notre volonté d'accompagner le développement du capital humain au niveau de la police et de renforcer les liens entre la police et la population, soutient Antonio Capone, chef de coopération à la délégation de l'Union européenne en RDC. La troisième phase du programme d'appui à la réforme de la police est financée par l'Union européenne dans le cadre d'une convention de financement avec le gouvernement de la RDC dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Il a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des services de la police.
Actualité internationale.
Les discussions sur les conflits au Soudan ont pris fin ce vendredi à Genève. Débutées le 14 août, elles se sont achevées sans aboutir à un cessez-le-feu, mais avec un engagement pris par les belligérants de garantir un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire sur trois routes principales dans les pays en proie à un conflit depuis avril 2023.
L'invité.
L'UNESCO s'engage à accompagner la société civile pour lui permettre de jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation. C'est dans ce cadre que cette organisation des Nations Unies a appuyé un atelier organisé en ce sens à Kananga par la Coalition nationale de l'éducation pour tous Connect. Spécialiste des programmes à l'UNESCO RDC, Saïp Si explique que le souci est d'assurer l'accès à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage à tous. Saïp Si s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Saïp Si, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que l'UNESCO attend de la société civile par rapport au plan sectoriel de l'éducation?
L'UNESCO, conformément à son mandat d'appuyer la mise en œuvre de l'ODD 4, qui promeut une démarche participative et inclusive dans la mise en œuvre des politiques sectorielles, donc appuie depuis un an la CONEPT, donc qui est la coalition fêtière des organisations de la société civile. L'UNESCO donc les appuie en les accompagnant pour voir quelle est la contribution réelle des activités des organisations de la société civile dans la mise en œuvre du plan sectoriel. Donc, c'est ce qui nous amène et ça, c'est le premier objectif. Mais le second objectif, c'est surtout impulser un dialogue et une coordination sectorielle au niveau des provinces parce qu'on sent une certaine faiblesse dans le dialogue et la coordination sectorielle dans les différentes provinces. Et c'est pourquoi, pour un peu mesurer les résultats que les différentes provinces ont dans leur contribution à l'atteinte des cibles de l'ODD 4, mais aussi de la stratégie sectorielle. Donc pour nous, c'est un moment très fort d'accompagner les organisations de la société civile qui viennent avec leurs résultats, mais qui aussi écoutent la partie institutionnelle quant à leurs résultats.
Vous parlez des faiblesses, qu'est-ce que vous avez relevé réellement?
La première faiblesse, c'est le système d'information et de collecte de données. C'est un des problèmes parce que généralement, les parties institutionnelles présentent des rapports qui n'incluent pas souvent les résultats des organisations de la société. Il fallait les abonner aussi à trouver un mécanisme autour d'une table pour essayer de pouvoir prendre en compte les données, les résultats obtenus par les organisations de la société civile. C'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est le premier aspect où vraiment l'UNESCO essaie d'appuyer ce dialogue sectoriel pour un peu essayer d'avoir la réalité des données et surtout des résultats obtenus au niveau provincial. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second objectif, ou bien le second résultat qu'on voudrait voir,
c'est de pouvoir impulser aussi les organisations de la société civile, qu'elles essaient aussi de donner le résultat aux institutionnels. Parce que, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle le rapport mondial de suivi des indicateurs des ODD. Et ce rapport, généralement, prend en compte les données des pays. Et si au niveau provincial, les données ne remontent pas au niveau national, ce serait difficile. Donc, pour nous, c'est essentiel d'appuyer les provinces, mais aussi, on appuie aussi au niveau national pour essayer d'améliorer le système d'information.
Alors, à quelques jours de la rentrée, vous pensez que la société civile a essayé de vous montrer ou prendre l'engagement d'accompagner le gouvernement pour l'amélioration du système éducatif?
Ah oui, en tout cas, l'UNESCO est très satisfaite. Les organisations de la société civile s'engagent aujourd'hui à accompagner le gouvernement pour une rentrée scolaire où tous les enfants donc auront accès, auront droit à l'éducation. Mais on sait qu'il y a des difficultés actuellement. Il y a eu des cas de catastrophes naturelles, des inondations. Et là, les organisations de la société civile s'engagent à accompagner, à aller avec le gouvernement ensemble pour essayer de trouver des solutions rapides. Sinon, on risque d'avoir des enfants déscolarisés.
Est-ce qu'il y a aussi des recommandations à formuler au gouvernement?
Oui, d'abord, je crois qu'il y a cette urgence par rapport à la prise en charge de ces enfants qui sont dans des zones inondées ou bien où il y a eu difficultés d'infrastructure, etc. Donc, le ministère aussi s'engage à organiser régulièrement ce qu'on appelle les comités techniques provinciaux, c'est-à-dire regrouper tout le monde autour d'une table, essayer de discuter des problématiques et des défis liés donc au système éducatif. Pas seulement l'éducation nationale, mais aussi il y a la formation professionnelle des métiers, l'enseignement supérieur universitaire et enfin il y a les affaires sociales avec l'alphabétisation.
Monsieur Saïb Sy, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Saïb Sy s'entretenait avec François Kadima. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information sur Radio Kapi. Et Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa a assuré sa mise en onde sous l'œil vigilant de Alain Irung Mushinj. Patience Ngalou Lambombo, c'est moi à la présentation. Merci de votre attention.